Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis et soyez les bienvenus à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Produits de saison, recettes, actualité de nos assiettes, c'est votre rendez-vous, hein, cuisine et alimentation du samedi. Il a cassé les codes de la grande cuisine en inventant la bistronomie, soucieux d'une alimentation de qualité pour tous, défenseur du fait maison, Yves Candebord est avec nous. Bonjour Yves.
Bon appétit.
En pleine forme, il a bonne mine cet homme-là. C'est l'homme du bon vin, notre tête chercheuse de la bonne bouteille de copain. À la table des bons vivants, justement, on lui met 20 sur 20. Olivier Pouls est avec nous. Bonjour Olivier.
Quel honneur. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde et à la vôtre.
Marion Sauveur, notre reporter de La Fourchette, nous rejoindra pour son journal de la cuisine. À l'occasion des Saintes Glaces, c'est en ce moment, Jean-Luc Petit-Renaud rendra hommage aux hommes et aux femmes qui prennent soin de leur terre face aux gelées. Quand on quitte un pays, la cuisine est sans doute la chose la plus facile à transporter. Ce samedi, nous nous intéressons à la cuisine de l'exil avec Stéphanie Schwarzbrot qui a recueilli des recettes et des témoignages d'exilés dans un très très beau livre. Les pommes de terre nouvelles sont de sortie, Marion Sauveur en a récolté du côté de Noirmoutier. Et puis sur les coups de midi, nous recevrons un homme qui aime faire la fête et la partager. Patrick Sébastien s'installera à la table des bons vivants. Bah il fait faim, allons-y. Encore un joli programme, une fois de plus. Avant de prendre nos cabas pour tâter l'ambiance du marché, question rituelle, les amis, quel est votre goût de la semaine? Vous n'étiez pas là la semaine dernière, on va commencer par vous, Yves Candebord.
Eh bien, moi, j'ai commencé par un coup de gueule.
Ah ben, allez-y.
Voilà, moi, j'en ai marre des extrémistes, en l'occurrence, des extrémistes véganes.
Ah, bah oui, je vous vois venir.
Voilà, oui. Qui agressent, qui cassent, qui tapent pour informer, ce n'est plus possible. Ils sont allés agresser un petit artisan boucher du marché Saint-Quentin.
Que nous sommes allés voir dans cette émission au tout début de l'année, effectivement.
C'est inadmissible. Alors, je les comprends quelque part sur le fond du problème. C'est vrai que la protéine animale, on en mange de trop, qu'il faut impérativement réduire la production, qu'il faut redevenir à des choses saines et simples, qu'il faut respecter les animaux. Mais pour respecter les animaux, il faut aussi respecter les gens. Alors que ces gens-là respectent les artisans qui travaillent avec déontologie, avec respect de l'animal.
Oui, parce qu'ils ont versé du sang sur l'étal d'un boucher. Ce qu'il faut expliquer quand même, Yves Candebord, c'est que ces extrémistes-là font du mal à la cause végane et au mouvement végane. Nous, les premiers, on cuisine végane naturellement.
Totalement.
Parfois. Nous sommes d'accord que pour le bien-être animal, il faut arrêter l'élevage intensif. Nous sommes d'accord avec tout ça qu'il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité.
Exactement, Laurent.
Mais de toute façon, c'est la phrase d'Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc il faut arrêter ces mouvements qui desservent la cause aussi végane.
Et puis il faut arrêter pour se faire entendre de casser, de taper, d'insulter. Ce n'est pas possible.
Nous sommes bien d'accord.
Pas mieux.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine, cher ami.
Oh ben moi, je vais recalmer le débat. Là. On va prendre un peu de douceur. J'étais à la campagne la semaine dernière et on m'a apporté des beaux œufs de ferme. Et alors, avec ça, j'ai fait ce que j'adore, c'est un flan. Alors, c'est très facile à faire, un flan. C'est des œufs, du bon lait entier, un petit peu de sucre, une gousse de vanille, une petite pincée de maïzena. On met ça tranquillement au four pendant quelques dizaines de minutes pour que ça cuise pas trop chaud, qu'on garde une belle texture. Et puis avec une crème caramel, quelle merveille!
Ça c'est bien, ça c'est vraiment le dessert classique, une belle crème prise comme on aime. Et ça c'est réconfortant et ça fait toujours l'unanimité
tout le monde
en général.
Ça, on en reprend deux ou trois fois et puis là, c'est pas vegan parce qu'il y a des œufs quand même. Bon, enfin bon, bref.
Mon goût de la semaine, il est vegan moi, tiens, si vous voulez, c'est le poiblon. Vous connaissez ça, le poiblon?
Oui, bien sûr.
Ça c'est super, c'est un légume sec que j'adore. On le trouve partout facilement aujourd'hui chez les petits producteurs à côté de chez vous. Vous allez peut-être pouvoir en trouver. C'est un cousin du pois vert, il est blond, c'est sec, donc il faut le faire tremper quelques heures avant de le cuire. Vous le faites cuire 1 heure et quart. Moi, je l'ai cuisiné par exemple avec des paupiettes. J'avais fait une sauce à l'italienne avec des belles tomates pelées en conserve, des pois verts, c'est la saison, et des pois blonds. C'est une légumineuse qui est vraiment accessible. Donc, tous aux pois blonds, c'est vraiment quelque chose qu'il faut redécouvrir. Et c'est le moment d'aller sur le marché. Direction la place de la République de l'île de Noirmoutier, où se tient un marché de locavores avertis. Marion Sauveur, vous attendez le micro entre deux achats aux producteurs du coin. Qu'est-ce qu'on mange sur l'île de Noirmoutier? On écoute.
Ce marché, j'y viens tout le temps parce que je trouve des produits locaux, de saison et frais. J'ai acheté des betteraves nouvelles, des petits pois. J'avais déjà acheté des carottes, donc je vais faire des petits pois carottes frais et les premières courgettes.
D'abord, le plaisir de trouver les bons produits de Noirmoutier, de la saison. Vous voyez, là, j'étais juste devant un producteur de légumes qui sortait les premières pommes de terre. Ben, c'est avec plaisir qu'on va les cuisiner ce midi. J'ai réussi à avoir de la maraîchine, un fromage de la Vendée. Puis derrière, nous avons la chance d'avoir du très bon pain. Ouais.
On fait la vente de pain en bio.
Il y a plein de bonnes choses.
Les huîtres, des petites carottes nouvelles, quelques pommes de terre. Et puis, les premières fraises.
Allez, messieurs, dames, la fraise de Noirmoutier est arrivée aussi. Hein.
On a acheté du maquereau, des bons fromages, du bon pain biologique. J'achète toujours local. Il faut faire travailler l'économie locale, c'est important.
Vous avez bien raison.
Bonne journée, merci.
Bonne journée, messieurs, dames. Bon samedi à tous. L'économie locale, c'est vertueux, effectivement. Encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais de consommer local, ça permet de préserver un tissu de producteurs et d'artisans locaux, Yves Candebord.
Oui, totalement. Et puis, je pense aussi que ça amène à la relation humaine. Remettons toujours l'humain au centre de l'assiette, je le dis toujours. Et c'est vrai que ce rapport que les gens ont avec leurs producteurs leur donne la joie, leur donne envie de cuisiner. Faire le marché, c'est donner de l'envie.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Restez avec nous. Hein. Nous avons investi l'île de Noirmoutier ce samedi pour ramasser les précieuses pommes de terre nouvelles. Des petites merveilles. Mais alors ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûtées dans sa vie. On va les récolter dans un instant. Ne bougez pas. À tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, la table des bons vivants vous parle recettes, astuces, mais surtout légumes de saison. Et aujourd'hui, Laurent, vous vous intéressez à un produit qui vous met en forme.
Absolument, Justine. La table des bons vivants à la patate hein, ce samedi, mais pas n'importe laquelle. On vous parle de la pomme de terre nouvelle, la primeur, même celle qui est avant la nouvelle, qui vient tout juste d'être récoltée. Olivier Poul, c'est une arrivée presque aussi attendue que celle du Beaujolais nouveau.
Ah ben, presque plus, parce que le Beaujolais nouveau n'a plus vraiment le vent en poupe, non. Alors que la pomme de terre nouvelle, c'est vrai que la primeur, c'est vraiment quelque chose qui on les voit sur les marchés, ça communique beaucoup dessus, et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Elles sont fondantes. Alors, on pense à ces pommes de terre de l'île de Ré ou de Noirmoutier, par exemple, qui poussent sur ces terres sablonneuses, donc qui sont parfaitement bien rondes.
Sucrées, c'est ça qui est génial.
Pratiquement fruité même, Laurent.
Oui, fruité. On parle du goût iodé pour celle de Noirmoutier. J'irai peut-être pas jusqu'à là, quand même. Mais
non,
c'est vrai qu'elles
ont un
délicieux,
goût fondant.
Non, mais
c'est vraiment délicieux. C'est très, très doux. Oui.
Faisons un petit tour de France, tiens, Olivier Pouls.
Voilà, après les îles de Ré et de Noirmoutier, on peut continuer vers la Bretagne, avec là aussi toute une série de productions qui va de Brest à Roscoff, de Lannion à Paimpol, sans oublier, évidemment, Saint-Malo.
Oui.
Là aussi, on va trouver de la pomme de terre primeur. Et puis après, plus au sud, en Provence, par exemple, ou en Camargue, tiens, figurez-vous, qu'il y a la célèbre Béa, par exemple, en AOP, qui se situe dans le Roussillon, sur les terres limoneuses de la Garrigue.
Oh, c'est beau, ça, bon, on y est. Alors, je vous vois venir, vous allez être jaloux, mon Yves Candebord. Dans le sud-ouest aussi, on cultive de la pomme de terre, évidemment, et il y a de la primeur en ce moment.
Mais Laurent, j'ai envie de vous
pas
dire
encore maintenant,
dans la France entière, on cultive la pomme de
partout.
Terre. Oui, c'est vrai que dans l'Aquitaine, on a beaucoup de pommes de terre. Et surtout en ce moment, c'est vrai que la primeur, elle a ce goût. Nous, les cuisiniers, on est très friands parce qu'on la travaille, elle est aromatisée, elle est fruitée, elle est agréable à croquer. Alors, il y a un pays que tout le monde connaît, parce que c'est la capitale de la tomate en France, Marmande.
Oui.
Et il faut savoir qu'ils sont réputés aussi pour leur production de primeurs.
C'est vrai, dans le Val-de-Saône aussi, il y en a.
Tout à fait. Alors, Marmande commence toujours au début juin. Et dans le Val-de-Saône, Laurent, vous avez raison, c'est des terres qui sont très sableuses. C'est un peu plus tard, c'est sur la fin du mois de juin en général.
Oui, mais de toute façon, Yves Candebord, c'est comme pour tout, le mieux sur cette production-là, comme vous venez de le dire, on en trouve partout en France, c'est de l'acheter localement, à côté de chez soi.
Exactement.
Et ça permet aussi de faire dégonfler les prix parce que...
C'est parfois très cher. Hein.
La pomme de terre de Noirmoutier qui débarque là, sur les étals parisiens en ce moment, elle est hors de prix. Quand on pense à la Bonnotte, qui est la star justement de la pomme de terre primeur, on est à plus de 16 euros le kilo, ce qui est quand même délirant.
Ouais, je pense que c'est totalement une aberration. Mais comme vous le dites, Laurent, restons dans les marchés locaux.
Bien sûr.
Profitons justement de ces producteurs qui ont leurs pommes de terre à eux, leurs pommes de terre primeur, même s'ils n'ont pas d'appellation, mais on est sûr de la qualité et surtout, on est sûr du rapport qualité-prix.
Et on ne les achète pas quand elles sont vertes, parce que je vois certains commerçants qui les stockent mal, qui les gardent à la lumière, et elles sont très fragiles, ces pommes de terre. Quand elles sont vertes, elles sont toxiques, hein, les pommes de terre primeur et nouvelles.
Oui, et puis il n'y a aucun intérêt de les acheter pour les conserver. C'est vraiment des pommes de terre qu'il faut consommer. Elles sont achetées, elles sont consommées.
Alors, on parlait de l'île de Noirmoutier, retournons-y. Du côté de Noirmoutier, la récolte a commencé depuis avril pour certaines variétés, mais pour la star d'entre elles, la fameuse Bonnotte, cette petite pépite ronde bosselée qui a failli disparaître, eh bien, c'est en ce moment qu'on la récolte. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable bonbon. Marion Sauveur y était et elle a planté le micro dans les terres sablonneuses de Noirmoutier.
Alors là, on est à Noirmoutier, dans les champs de pommes de terre, la Bonnotte, et on est en train de la récolter. On voit bien, lorsqu'on prend une patate, elle est peleuse.
Il faut que sa peau ne tienne pas.
C'est une patate nouvelle, une primeur. Quoi. C'est le moment, parce que si on attend trop longtemps, la peau va durcir. Elle sera trop mûre, et c'est pas à ce moment-là où elle sera la meilleure. Mais c'est la variété emblématique de Noirmoutier, celle que nos grands-parents cultivaient. On les ramasse à la main, mais elles sont déterrées à la machine. des aligneuses, comme on appelle ça, pour les aligner sur le sol, mais il faut quand même les ramasser.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire là, hein ?
Voilà, on est à genoux et on gratte la terre, parce qu'il y en a toujours un petit peu sous la terre. Ils sont souvent accrochés aux pieds, donc il faut tirer dessus. Ça, c'est vraiment une particularité de la bonnotte.
Elles sont belles, celles-là, hein ?
Ah oui, très belles. 4 cm à peu près, c'est bien. Même les plus petites, évidemment. De toute façon, elles ne peuvent pas toutes être régulières.
Et la particularité de cette bonnotte, c'est son petit goût sucré.
Évidemment, c'est ce petit goût sucré qu'on retrouve tous les ans. Certains diront qu'elle a un petit goût de châtaigne, mais ça c'est un peu... Et c'est aussi la texture un peu fondante, à la fois ferme et fondante. Il faut la goûter. Quoi.
Évidemment qu'il faut la goûter. Merci Valentin Bodin pour cette belle récolte. C'est vrai que c'est agréable, ce petit bruit des pommes de terre qui roulent comme ça dans les jolies caisses en bois de Noirmoutier. On a envie de la cuisiner tout de suite, Yves Cordebord. Comment on la cuisine, tiens, pour bien la respecter ?
Alors moi j'ai un souvenir d'enfance, c'est bien souvent comme ça. Chez moi, c'est le souvenir, c'est les premières primeurs qu'on ramassait dans les champs, on les faisait à la cheminée. Alors, bien sûr, à Paris, malheureusement, on n'a plus le droit aux cheminées.
C'est
alors,
compliqué.
J'ai essayé de trouver une solution différente et j'ai une recette qui est pas mal. Je prends une casserole, j'y mets une bonne poignée de foin.
Oui.
En fait, il faut trouver le foin aussi.
Alors, le foin, on le trouve quand même facilement.
On en trouve dans les animaleries.
Dans les animaleries, on en trouve sans aucun problème. Ce foin, je me mets bien sûr à l'extérieur, surtout pas à l'intérieur. Je me mets à l'extérieur avec ma casserole, j'y mets le feu.
Donc, ça doit être sympa à voir depuis le trottoir.
Ça prend feu, ça prend feu. Donc, je brûle mon foin, je le couvre assez rapidement avec un couvercle pour justement éteindre le feu. J'y rajoute du thym, du laurier, de la sauge, du romarin. Je couvre d'eau, je porte une fois à ébullition, j'assaisonne de sel de poivre, je mets mes pommes de terre à cuire, je fais cuire mes pommes de terre dedans. Une fois qu'elles sont cuites, je les sors, je les laisse refroidir. Une fois qu'elles sont froides, je les égoutte, je les rince un petit peu. Et là, une noix de beurre demi-sel, je roule mes pommes de terre dedans. Et je peux vous assurer que je retrouve ce goût.
Elles ont un petit goût fumé avec votre foin en
elles
plus, non ?
Elles ont un petit goût fumé, eh oui. Justement. Ça bien. Me rappelle justement la pomme à la cheminée eh oui. De mon enfance.
Alors tout simple, sinon, hein, si vous n'avez pas de foin à la maison, c'est dans de l'eau bouillante salée, tout simplement.
Ou à la vapeur.
Départ au froid ou à la vapeur, exactement. Vous comptez 20-25 minutes de cuisson. Et là, à nouveau, on les enrobe, on les fait rouler dans un beau beurre salé. Elles aiment ça, les pommes de terre primeurs et les pommes de terre nouvelles. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls ?
Bah, les pommes de terre, on les mange rarement toutes seules, donc ça va souvent dépendre de l'accompagnement. Oui. Mais si on fait une salade de pommes de terre en entrée comme ça, un vin très simple, un petit vin blanc, voilà, par exemple, du sud-ouest ou de la Loire, ça m'irait très bien.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur à la table des bons vivants et on va parler de la belle cuisine de l'exil. Un très très beau sujet, vous allez entendre. A tout de suite sur Europe 1. Bon samedi matin.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Comme tous les samedis, les bons vivants d'Europe 1 vous invitent à leur table pendant 1h30, juste à côté de Laurent Mariotte.
Absolument Justine, nous avons déroulé la nappe depuis 11h et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors on piquera une tête dans la Méditerranée en fin d'émission pour déguster le plat du jour avec notre invité Patrick Sébastien. Mais pour l'instant, c'est l'heure du journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bonjour.
Votre ronde serviette vous attend. Marion, voici les titres du journal.
De nouveaux termes culinaires entrent dans l'édition 2020 du Petit Larousse, le détail dans quelques instants. 6 litres et demi d'alcool pur, c'est ce que consomme en moyenne chaque adulte dans le monde par an, un chiffre en très forte hausse. Et on connaît le gagnant de Top Chef, demain vous pourrez le rencontrer au Festival de la gastronomie parisien, Taste of Paris.
De la gourmandise dans la nouvelle édition 2020 du Petit Larousse, écoutez bien.
Alors, est-ce que vous connaissez les mots clouquet et dagobert ?
Ah non.
Alors, clouquet, c'est une expression bretonne qui veut dire se goinfrer. Et dagobert, c'est un sandwich en Belgique, Olivier.
Ah bah,
alors,
bah c'est dans le dico maintenant.
Et voilà, autre entrée dans le dictionnaire, le stollen alsacien, la boisson fermentée, le kéfir, oui. Les nouilles japonaises, le udon, et le plat de nouilles asiatiques ramen, mais aussi le terme locavorisme. Le chef Marc Vera fait son entrée du côté des noms propres.
C'est pour l'année prochaine, Yves Candebord, dans le dico, on en a demandé.
Je leur laisse.
La consommation d'alcool dans le monde n'a jamais été aussi élevée, Marion.
C'est ce que révèle une étude publiée cette semaine dans la revue médicale britannique The Lancet. En 2017, chaque adulte dans le monde a consommé en moyenne 6 litres et demi d'alcool pur. C'est 1,5 litre de plus qu'en 1990. La consommation d'alcool augmente particulièrement dans les pays dont le niveau de vie s'élève, comme l'Inde et la Chine.
Et de 2, c'est le nombre de chefs passés par la résidence du Refugee Food Festival qui ont ouvert leur restaurant.
Et une belle réussite pour ce centre de formation dédié aux chefs réfugiés. Après le chef syrien Nabil Attar qui a ouvert Narenj à Orléans, c'est la chef géorgienne Magda Jejenava qui vole de ses propres ailes avec son premier établissement éphémère. C'est à Paris. Vous pouvez y déguster notamment les rinkali, des raviolis gorgés de bouillon. Et juste après ce journal, nous allons continuer de parler de cuisine de l'exil avec vos invités, Laurent.
Exactement, un beau dossier consacré à cette cuisine justement qui répare les cicatrices du déracinement. Samuel Albert est le gagnant de Top Chef, bravo à lui.
Le chef de l'ambassade de Belgique au Japon a remporté cette 10e édition de l'émission d'M6. Il était opposé à Guillaume Pape installé à Brest. Samuel Albert va bientôt ouvrir son propre restaurant en France, à Angers. Il devrait s'appeler Les Petits Prés. Et pour les impatients, vous pourrez découvrir les finalistes de Top Chef demain à Taste of Paris, le festival de la gastronomie installée sous la nef du Grand Palais jusqu'à demain soir, accueille 22 chefs cuisiniers, 21 chefs pâtissiers et un marché gourmand.
Eh ben on y sera. Merci beaucoup Marion Sauveur. Il y aura Pierre Samboyer, Romain Méder, Christophe Michalak, j'en passe et des meilleurs, comme on dit. À tout à l'heure, Marion. Alors la cuisine, c'est bien plus que des recettes. C'est une phrase que l'on dit souvent dans cette émission. La preuve, encore une fois aujourd'hui, avec la place capitale vraiment de la cuisine dans la vie de ceux qui ont dû quitter un pays pour refaire leur vie ailleurs. La cuisine permet de retrouver et de conserver une part de son passé. C'est ce qu'on va constater avec vous, Stéphanie Schwarzbrod. Vous venez de publier La cuisine de l'exil, un livre de 24 témoignages poignants de migrants avec les recettes qu'ils ont emportées dans leur bagage. Très très joli livre paru aux éditions Actes Sud. Bonjour Stéphanie Schwarzbrod.
Bonjour.
Et bravo pour ce livre. D'où Merci. Vous est venue l'idée d'ailleurs, justement, racontez-nous.
Alors, je crois qu'en fait, c'est parti d'une lecture d'un livre de Fatema Al, la chef de la Mansouria.
Absolument.
Qui parlait justement des paniers qu'elle ramenait à l'aéroport, de tout ce qu'elle ramenait du Maroc. Et puis, de tous les gens qui étaient autour de moi. Moi, je vis avec un homme dont la famille vient de Russie, qui a quitté la Russie au moment de...
La révolution d'octobre, c'est votre premier témoignage.
D'octobre. Oui, ouais.
Avec la maman de votre ami qui est née dans un camp de transit,
oui.
D'ailleurs, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, en Allemagne, en 1922. Et qui donc est arrivée en 1924 à Paris et qui a vraiment vécu la vie des exilés, son père... qui était officier et est devenu chauffeur de taxi, et sa mère serveuse dans un salon de thé russe. Et donc, je vivais comme ça avec toutes ces histoires de Russie.
Alors, vous n'êtes pas venu seul, Stéphanie Schwarzbrod. Vous êtes venu accompagné de Saïd Mirzaï. Vous venez d'Iran. Bonjour, Saïd.
Bonjour.
Vous avez quitté l'Iran il y a une dizaine d'années hein, pour pouvoir vivre la vie que vous aviez envie de vivre ici en France. Et ce qui est troublant dans votre témoignage, c'est que la première chose que vous avez emportée avec vous, ce sont des parfums, mais des parfums culinaires, gustatifs d'Iran. Vous êtes parti avec quoi dans votre valise ?
Surtout avec plein de noix, des pistaches, du safran, pas mal des herbes sèches que ma mère m'a transmis, m'a préparé et m'a donné.
Vous êtes arrivé à Paris et vous n'étiez pas forcément fan de cuisine au départ. Vous goûtiez la cuisine de votre maman en Iran, mais c'est à Paris que vous êtes mis à cuisiner en fait.
Tout à fait. En fait, j'avais jamais cuisiné vraiment. J'avais fait des tentatives de faire des desserts voilà, pendant les week-ends.
Yves Condebord, c'est vrai que l'immigration en cuisine a toujours joué un rôle dans notre découverte, dans notre richesse. On peut penser à Catherine de Médicis, par exemple, qui est venue d'Italie avec plein de bonnes choses.
Oui, totalement. J'ai envie de vous dire que la France a su toujours s'inspirer de ces cultures qui nous venaient de l'extérieur. Que moi, je vois qui suis du sud-ouest, quand on a eu les immigrés portugais qui sont arrivés. Dans le nord de la France, quand on prend les mineurs polonais qui sont arrivés, et on voit que les cuisines régionales ont été marquées par cette culture. La table, c'est toujours le moment du partage. Donc quand les gens viennent d'un pays extérieur, qu'ils amènent leurs plats, on s'assoit avec eux, on partage, on discute, voilà, on se regarde en tant qu'humain.
On a fait un sondage sur le groupe Facebook des bons vivants sur la page Europe 1. Quel est votre plat préféré qui vient d'ailleurs ? Eh bien, en 1, c'est le couscous. En 2, c'est la paella. Et en 3, le chili con carne aussi, qui est un plat rassembleur. Ce qu'on peut voir avec ces trois plats-là, quand même, ce sont, comme vous le dites, des plats de partage qu'on met au centre de la table et qu'on va déguster comme ça. Saïd, vous, en Iran, est-ce qu'il y avait un plat comme ça de partage qui évoque vraiment vos années passées là-bas ?
Il y a Obgouche, par exemple, qu'on partage surtout les week-ends.
C'est quoi ?
En fait, c'est un mélange de la viande et pommes de terre qui est mijotée pendant des heures et des heures. Voilà, avec beaucoup d'oignons aussi. C'est bien gras.
Mais c'est riche et c'est bon.
C'est riche.
Les cuisines du monde ont toujours enrichi la cuisine française. On continue d'en parler avec nos invités. On revient dans un instant, juste après un peu de musique. Ne bougez pas. Bon samedi matin sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Nous parlons de la cuisine de l'exil ce samedi matin avec nos invités. Vous savez, cette cuisine qui agit comme un baume pour apaiser les cicatrices du déracinement. Avant de reprendre le cours de notre débat, on écoute Jane Oman sur Europe 1.
3 ans de succès déjà pour la Toulousaine Jane. Et ça continue avec le titre que vous venez d'entendre, c'était Oman.
Europe 1.
On a tous des recettes qui nous rappellent nos origines. Eh bien, à la table des bons vivants, on les revit ensemble avec les invités de Laurent Mariotte.
Avec Stéphanie Schwarzbrod et Saïd Mirzaï, on parle de la cuisine de l'exil, celle qui permet de ne pas perdre ses racines, mais aussi celle qui permet de s'intégrer dans le pays accueillant. La cuisine de l'exil, c'est le titre d'un livre paru chez Actes Sud. Un joli livre signé Stéphanie Schwarzbrod avec 24 témoignages de gens qui ont dû quitter leur pays pour différentes raisons. Ça peut être par amour, ça peut être pour fuir une dictature ou fuir la misère, Stéphanie.
Voilà, pour moi c'était très important que ce soit des raisons très différentes, qu'ils soient gays ou tristes, mais que ce ne soit pas que des histoires terribles. Et puis que ce soit sur un siècle, que ça raconte aussi une partie de l'histoire de France et du monde par rapport au fait que l'indépendance de l'Algérie en 62, la chute de Saïgon au Vietnam.
Voilà, avec les premiers Vietnamiens qui arrivent à Paris, les Grecs qui fuient la crise économique plus récemment.
Oui, hein. les Syriens, les Irakiens aujourd'hui.
Les Kurdes.
Voilà, et puis aussi les Juifs qui ont fui l'antisémitisme de Pologne en 1936 et qui ont traversé la guerre en France.
Et à chaque fois, la cuisine, en fait, agit comme un lien, comme un baume qui répare les cicatrices du déracinement. Olivier Pouls.
Évidemment, et puis ça amène à cette réflexion. On est dans une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on parle locavorisme, on veut de plus en plus se replier sur soi-même, aller chercher les produits qu'à 50 km autour de chez soi. Et puis, il y a la réalité du monde. Les gens bougent. Et ces gens qui arrivent de l'autre bout du monde, ils amènent leurs saveurs. Et ils ont aussi envie de les retrouver. C'est un paradoxe.
Et ben on le voit, quand le couscous fait partie d'ailleurs des plats préférés des Français, Yves Condebord.
Oui, totalement. Parce que là, c'est un plat qu'on a intégré à notre gastronomie. D'ailleurs, on peut prendre un exemple vraiment précis, un 3 étoiles Michelin, Alain Passard, qui fait un couscous de légumes à sa carte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a récupéré un peu les méthodes de travail, les techniques de travail du couscous, pour les amener dans la haute gastronomie française.
Avec le chou-fleur et le brocoli qui
le
râpe.
Le chou-fleur, le brocoli, la petite merguez végétale. Quoi. C'est ça qui est magique.
On a fait un autre sondage sur le groupe Facebook des bons vivants sur la page Europe 1. De toutes les cuisines du monde, laquelle vous attire le plus? En 1, c'est la cuisine méditerranéenne. En 2, c'est la cuisine asiatique. Et en 3, la cuisine du Maghreb. Cuisine méditerranéenne, eh bien, vous en êtes un bel exemple. Exemple, Saïd Mirzaï, vous qui êtes arrivé d'Iran en France il y a quoi, il y a une dizaine d'années à peu près?
8 ans.
Et vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un dessert typique d'Iran. Racontez-nous ce que c'est.
Alors il s'appelle Ferani ou Yartar Behesht. C'est Stéphanie qui l'a aussi écrit dans son
livre. Oui, parce qu'il y a les recettes dans le livre. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est 120. Pas qu'un livre de témoignage. Il y a 120 recettes, oui. Et toutes simples et faciles. Il faut juste trouver les bons ingrédients, mais on les trouve facilement aujourd'hui.
Ce qu'il faut dire, Laurent, c'est que c'est bon.
Ah oui, c'est très bon. Ah oui,
c'est très bon.
C'est totalement inattendu. Non. Je ne connaissais pas du tout ni la texture, ni. Ouais. C'est floral.
Floral, c'est vraiment. De la rose, non?
Oui, tout à fait. En fait, c'est fait avec farine du riz mélangée avec du lait. Et on ajoute cardamome et l'eau de rose.
Oh, c'est délicieux.
C'est délicieux.
Merci.
C'est votre Madeleine de Proust, ça? Non, parce qu'il y a ce côté
croquant par-dessus avec les fruits secs, là, c'est vraiment très très bon.
C'est délicieux. Vous faites quoi dans la vie, Saïd?
Je suis comédien.
Vous pouvez pas ouvrir un restaurant aussi? Parce qu'on verra manger iranien.
Laurent, c'est encore l'exemple précis. L'eau de rose, Pierre Armé, le macaron,
l'Ispahan.
Eau de rose, l'Ispahan, eau de rose, framboise. Je suis persuadé que Pierre a sans doute capté ces odeurs, ces senteurs dans votre pays.
Alors Stéphanie Schwarzbrod, vous qui avez écrit ce livre avec de jolis témoignages, on parlait de Pierre qui est arrivé d'Algérie après l'indépendance. Il est arrivé, vous imaginez, il quitte l'Algérie, il se retrouve à Briançon dans les Hautes-Alpes. C'est pas du tout le même climat, ce n'est quand même pas du tout la même atmosphère. Et lui qui a été vraiment imprégné de la culture du poisson, des sardines, du rouget, il voit le poissonnier ambulant une fois par semaine qui passe avec du merlan. Et là, il se passe quelque chose d'amusant avec ce poissonnier ambulant.
Oui, alors donc il voyait arriver ce poisson blanc qui n'avait pas beaucoup de goût. Et donc, ses parents font des commandes au poissonnier. Ils lui disent, parce que ce poissonnier arrivait de Marseille. Donc lui, il avait toujours amené du poisson blanc parce que tout le monde lui réclamait du poisson blanc. Donc ils disent, est-ce qu'on pourrait avoir des oursins, des sardines, des rougets? Et un jour, ils font un barbecue et ils font cuire les sardines. Et petit à petit, les fenêtres s'ouvrent et tous les voisins arrivent. Ils ne connaissaient pas les sardines. Et donc, ils sentent l'odeur, ils arrivent tous.
C'est vrai que la sardine qui cuit, ça sent. Hein,
mais oui,
ils goûtent, ils trouvent ça super bon. Et finalement, le poissonnier, maintenant, arrive avec des sardines, des rougets, des oursins. C'était une famille très généreuse. J'ai des souvenirs d'un caviar d'oursin que faisait son père qui était à tomber par terre. Et donc.
Et tout Briançon s'est mis à la sardine. Et ben voilà, on en parlera des sardines avec notre invité Patrick Sébastien tout à l'heure. Restez avec nous, Stéphanie Schwarzbrunn avec son joli livre La cuisine de l'exil et notre invité. On va parler aussi d'un beau festival dans un instant et puis d'un traiteur qui cuisine uniquement avec des chefs cuisiniers réfugiés. C'est la table des bons vivants, c'est samedi. Vous êtes bien sur Europe 1, tout de suite.
11h30. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
On continue à s'intéresser à la cuisine de l'exil, un sujet dont on entend de plus en plus parler avec vous Laurent, et vous êtes bien entouré ce samedi.
La cuisine de l'exil absolument est un sujet d'actualité Justine, mais c'est aussi le titre d'un très beau livre, le livre de Stéphanie Schwarzbrunn paru aux éditions Actes Sud, hein, des années 20 à nos jours, à travers 24 témoignages. Stéphanie, vous mettez des visages hein, sur des personnes venues d'ailleurs et qui trouvent leur place en France, à chaque fois des témoignages où la transmission culinaire a son importance.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie de transmettre notre enfance. Donc, c'est ces gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont connu un pays qui n'est pas celui que connaissent leurs enfants, ont envie de transmettre à leurs enfants leurs recettes.
Un très bel exemple de quelqu'un qui arrive du Rwanda et qui vient avec une valise pleine de patates douces blanches parce qu'il ne pourra pas en trouver en France. Et ce qu'il apporte avec lui, ce sont des patates douces blanches qui ont un autre goût et une autre saveur que celle qu'on connaît, quoi. Olivier Pouls.
Et il y a une autre très belle histoire, c'est celle du chef Alain Jeham, réfugié d'ailleurs, qui est arrivé absolument sans le sou, sans parler français, avec une seule passion en tête, celle de la cuisine. Il venait du Liban, il a ouvert son premier restaurant, il s'est battu, il a appris la cuisine dans les livres et aujourd'hui il est étoilé Michelin. C'est une histoire incroyable.
Et il y a plein de belles initiatives hein, qu'on peut saluer. Il y a le Refugee Food Festival. Là, c'est la 4e édition là, qui va se dérouler dans 15 villes autour du 20 juin prochain. Le festival il est organisé par des équipes de citoyens bénévoles qui se portent candidats chaque année pour développer le projet dans leur ville. Alors il y a Bordeaux, Bruxelles, Madrid, Marseille, Strasbourg. Plein de villes qui accueillent comme ça des réfugiés pour cuisiner. Et puis il y a les cuistots migrateurs. Ça, c'est un traiteur qui emploie uniquement des chefs cuisiniers qui sont réfugiés. Nous avons Louis Jacot, qui est un des fondateurs des cuistots migrateurs, au téléphone. Bonjour Louis Jacot.
Bonjour.
Pourquoi vous avez eu l'idée de créer ces cuistots migrateurs ?
On s'est dit que c'était dommage que les réfugiés soient toujours présentés comme une menace ou comme des victimes. Et nous, on s'est dit qu'ils avaient quelque chose à apporter, des talents à valoriser. Et comme on est super gourmand et qu'on a beaucoup voyagé, on s'est dit que la cuisine, c'était sans doute la meilleure manière de montrer quelque chose de positif, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui met tout le monde sur un pied d'égalité et qui apporte du plaisir. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée des cuistots migrateurs.
Alors, une recette qui vous a marqué, justement, que vous ne connaissiez pas ?
Eh bien, j'ai découvert les momos népalais, qui sont des raviolis vapeur qui peuvent être au porc ou au chou. Mais ils ne sont pas servis avec une sauce soja comme on peut avoir l'habitude de goûter dans d'autres cuisines asiatiques, mais avec un achar, qui est un condiment à la tomate, au sésame grillé, au gingembre et aux épices. Et on vient prendre un petit peu, tremper nos raviolis dans ce condiment.
Les momos, vous les appelez.
Un régal. Les momos népalais, oui.
Les momos népalais, il faut tremper les momos népalais, c'est bien ça, ça nous plaît ça.
Joli.
Merci beaucoup Louis Jacot pour votre témoignage et bravo donc aux cuistots migrateurs. Merci Stéphanie Schwarzbrunn d'être venue à cette table. Merci à vous Saïd. Rappelez-nous le nom de ce dessert que vous avez fait pour nous.
Ferreni ou Yachtarbech.
À l'eau de rose et à la farine de riz, on mettra la recette délicieux sur europe1.fr. C'est délicieux, c'est floral, c'est léger. Et je crois que Yves Condebord va le mettre à la carte du comptoir.
Laurence, vous rigolez, mais je pense que c'est un dessert qui est intéressant.
Très intéressant.
Peut-être pas retravailler exactement de la même façon, mais s'appuyer cette base-là, sur ces saveurs-là, et l'amener une fois de plus dans la gastronomie française.
Et merci à vous deux d'être venus. Je rappelle le titre de votre livre, La cuisine de l'exil, paru chez Actes Sud.
Europe 1. 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart. Alors tiens, on va faire un petit jeu, Yves Condebord et Olivier Pouls. Si je vous dis Saint-Mamé, Saint-Pancras...
Fromage.
ça pourrait.
Saint-Pancras, la gare.
Mais non, ce sont les saints de glace.
Ah.
Ces fameux saints qui transforment le printemps en Toussaint. Et ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud tire un coup de chapeau aux vignerons et aux arboriculteurs qui protègent leur sol du gel. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Bien le bonjour, les vrais amis de la gastronomie. Écoutez, ces derniers temps, on n'a pas eu chaud. Hein. Moi, j'ai ressorti les chandails de l'hiver, mais on annonçait les fameux saints de glace. Des saints qui sont extrêmement sont craints par les arboriculteurs et par les vignerons parce que tout simplement, ils arrivent comme ça à l'improviste au milieu de la nuit ou au petit matin et ils viennent raboter les petits bourgeons des vignes, brûler les jolies fleurs en devenir des cerisiers et des abricotiers. Alors on voit l'organisation de tous ces vignerons, de tous ces arboriculteurs qui ne quittent pas le terrain, qui relèvent le col, qui font des brasiers de paille pour pouvoir créer une sorte de fumée naturelle au-dessus des arpents de terre pour protéger du gel. Et on les voit aussi s'organiser pour qu'il y ait une chaleur qui se dispense autour de la vigne, autour du verger. Et tout ça, c'est très naturellement fait. Parce qu'on n'a pas encore trouvé de machine ou de mécanique suffisamment puissante pour pouvoir organiser cette défense-là. Et moi, je trouve qu'ils méritent vraiment un petit coup de chapeau parce qu'ils ont un cœur énorme pour préserver notre panier futur et avoir les fruits et les raisins que l'on souhaite lorsqu'ils sont en fin de protection de leur vigne vers la fin de la matinée. Eh bien là, ils toastent le pain sur les brasiers et puis ils couchent une belle tranche de terrine pour fêter encore leur victoire.
Comme c'est bien dit, merci beaucoup encore une fois Jean-Luc Petit-Renaud pour votre joli point de vue.
Victoire, hélas, pas toujours, ben parce que voilà, les Cinglas,
c'est en ce moment,
et donc la semaine dernière, la gelée a frappé dans certains vignobles de France, et il faut penser à ces vignerons qui n'ont qu'une seule récolte par an et qui en perdront une partie, c'est très dur pour eux.
Exactement, et on a pu voir d'ailleurs dans certaines régions ces jolis bains de paraffine qui brûlent la nuit, ces vignerons, ces arboriculteurs qui se lèvent vers 3-4 heures, comme le disait Jean-Luc, pour chauffer tout ça. Ouais. Dans un instant, nous accueillerons un homme qui a le sens de la fête, le goût des bons repas. Il a donc son rond de serviette à cette table. Patrick Sébastien est notre invité ce midi, juste après un peu de musique. A tout de suite sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. La table des bons vivants est au complet. Patrick Sébastien, notre invité, est en train d'arriver. Et pour lui rendre hommage, Yves Condebordes, vous allez traiter d'un essentiel de nos placards dans un instant.
Totalement. Ma Madeleine de Proust.
La boîte de sardines.
La boîte de sardines à l'huile.
Millésimé ou pas, voilà. Mais juste avant, on écoute un des grands crus de la chanson française, Calogero, en apesanteur sur Europe 1. Bon samedi midi.
C'était En apesanteur, ce grand classique de Calogero qu'on connaît tous par cœur, sorti en 2002.
Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes à la table des bons vivants avec toute l'équipe, mais aussi des invités. Et je vous rappelle au passage que vous pouvez poser toutes vos questions, bien sûr, sur le répondeur d'Europe 1. Le 39-21, 50 centimes la minute, on n'attend plus que vous.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants, il est bientôt midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Vous l'entendez de loin, il est né à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Il a le pouvoir de réveiller toutes les tablées de France et de Navarre. Imitateur, animateur, producteur d'émissions, d'émissions à succès, auteur de livres dans lesquels il se raconte en toute sincérité. Cet homme possède le sixième sens de la fête, Carnaval, Le Grand Bleu, le plus grand cabaret du monde. Avec son nouveau spectacle, il aime faire rire et émouvoir. Et quand il ne fait pas tourner sa serviette, il la déplie pour bien se tenir à table. Patrick Sébastien, notre
Quelle
invité.
Quelle belle présentation.
Mais c'est tout vous, ça. Bonjour Patrick.
On se vous voit.
Bah oui.
C'est... Oh merde.
On fait comme si on s'était jamais vu, comme on se connaissait pas. Comment
comme
tu
si
vas
t'es... Comme si t'étais pas au spectacle l'autre soir, ouais, et comme si on n'avait pas mangé ensemble.
Je suis venu te voir l'autre soir, nous avons dîné ensemble.
Ouais.
Et tu... Alors tiens, justement, on va parler de ça. Votre rapport à la table, Patrick Sébastien, vous dites d'ailleurs
c'est
que
essentiel.
La table est l'endroit où vous avez pris le plus de plaisir dans la vie.
Ouais, m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux devant des plats. Et pour moi, les cuisiniers, c'est des artistes.
Qu'est-ce que vous mangez là? Ce serait pas votre goût de la semaine?
C'est du Saint-Nectaire.
Ah,
et du Saint-Nectaire de printemps. J'ai des amis à Aurillac qui me fournissent un petit peu en Saint-Nectaire. Et j'explique, mais je me suis fait des festins de Saint-Nectaire au mois d'août, avec le Saint-Nectaire de printemps, avec un peu de jambon cunoir. Ce jambon cunoir dont on ne parle pas assez, on parle du Serrano, on parle de tout ça. Le cunoir, il est exceptionnel. C'est Trois Gros qui m'a fait connaître ça. Il me dit, c'est de chez toi. Parce que chez moi, on a quand même pas mal de trucs. On a le veau sous la mer, on a la truffe, on a le...
La châtaigne.
J'ai quelques truffes sur ma propriété, mais ça ne pousse pas.
Des chênes truffiers, mais il faut une dizaine d'années
pour
que ça pousse. Oui.
Et puis il faut un bon chien pour aller chercher.
Ben ouais.
C'est votre dernière ce soir à la télévision sur France 2 avec les années bonheur, Patrick Sébastien.
Ça, je vais me suicider. Tiens,
non, pas du tout, parce que ce n'est pas le genre de la maison déjà. Et en plus, vous êtes sur scène en tournée avec un spectacle qui cartonne, qui s'appelle Avant que j'oublie, c'est pour ça que j'en parle. Et alors là, vous ne vous vous interdisez rien, vous parlez de tout, de vos grands souvenirs, de vos grands moments, de vos grandes rencontres, et de l'actualité aussi, du fait qu'on ne peut plus dire grand-chose à la télévision aujourd'hui.
Et on est à la radio, donc on peut dire ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas dire grand-chose.
Non, on est libre ici, c'est vrai que la parole n'est pas formatée ici.
Oui. Si, il y a YouTube encore, on peut parler, on peut à peu près, mais la télé, non. C'est... Puis même, il suffit qu'on dise un truc, on prend une phrase, on l'enlève de son contexte. C'est ce qu'il y a de bien sur scène, c'est quand tu dis quelque chose, il y a l'avant, il y a l'après, il y a le pendant. Donc les gens, ils peuvent se faire une idée sur tout. Pas sur une phrase qui est sortie comme ça. Par exemple, Laurent Mariotte a dit « j'aime pas les pommes de terre ». Tous les producteurs se mettent contre lui. tu vois.
Alors, on va profiter de votre présence, Patrick Sébastien, pour rendre un hommage à un essentiel de nos placards. Un essentiel de nos placards qu'il faut tous avoir à la maison. C'est... Écoutez... La boîte de sardines.
Ah, c'est que c'est marrant parce que j'ai jamais beaucoup aimé les sardines.
Eh ben nous on adore ça. Et justement,
quand j'étais gamin, j'en bouffais, tu sais, avec du beurre. Écrasé. Ce que je te disais l'autre jour quand on discutait, je te disais que j'avais une chance extraordinaire. C'est peut-être de là que je tiens ma bonne santé, parce que j'ai une santé. Mon médecin me dit que je suis une insulte à la médecine à 65 ans. Mais ça, c'est très important dans le cadre de ton émission. Comme on n'avait pas de thunes, on mangeait bio.
Mais naturellement.
Et c'était gratuit. Et aujourd'hui, c'est cher. Mais à l'époque, moi, j'ai bouffé jusqu'à 14 ans. J'ai bouffé les tomates du jardin, les haricots. Il y avait effectivement des sardines. Je me rappelle, c'était une entrée. C'était les sardines écrasées avec du beurre. J'étais pas trop fan des sardines. Je sais pas
pourquoi. Eh ben, vous allez voir qu'on peut les revisiter. Vous avez à côté de vous un de nos plus grands chefs. C'est Yves Candebordes.
Le défaut, c'est d'être du sud.
Il est du sud-ouest. Non, alors,
il dit ça,
le pays du rugby,
de la
Garbure. Eh ben oui. Alors, Yves Candebordes, c'est vrai que la boîte de sardines, ça fait partie des essentiels qui vous séduisent aussi.
Oui, totalement. Moi, je suis totalement fan. J'ai envie de vous dire, même des fois, quand j'ai pas le moral, mais je vais me chercher une petite boîte de sardines dans le frigo et ça me redonne le moral. Voilà, c'est des goûts. Je pense que c'est des goûts qui sont mes goûts d'enfance. Laurent, c'est 1820, les premières boîtes de sardines. Et ça a été fait en France, il faut en être fier. Sur les côtes atlantiques, c'est les conserveries qui avaient énormément de sardines, mais qui étaient un produit pas cher. Donc ils ont mis ces produits, ces poissons, dans des boîtes, ils les ont exportés, ils les ont envoyés aux armées et aux marines des pays étrangers.
Et pour nos soldats.
Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a été un boom là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui ont goûté ça, ils ont trouvé ça extraordinaire. Et du coup, ça a été dans les 10 produits français les plus exportés dans le monde. Toutes les grandes tables princières gastronomiques avaient les boîtes de sardines françaises, autant que du champagne, que le cognac à l'époque.
Et ensuite, c'est devenu un vrai produit accessible à tous, un produit pour les ouvriers, pour les paysans. Et c'est vrai qu'on en a vu beaucoup débarquer des boîtes de sardines.
J'en ai rarement vu dans les gastros, quand même. Restaurants gastronomiques.
À Paris, il y avait une grande mode dans un restaurant à une époque, c'est qu'ils vous ouvraient une boîte de sardines millésimée, ils l'ouvraient, ils la posaient comme ça dans votre assiette
et
sans rien,
50 balles.
Et ils vous demandaient 15 euros. Voilà.
C'était la maison Le Duc dans le 14e arrondissement, il faut le dire. Mais Laurent, ce qui s'est passé malheureusement, il s'est passé que les industriels qui ont pris ce marché, qui n'ont pas respecté la qualité ni la façon de le travailler, et donc c'est devenu un produit relativement banal.
Oui, mais c'est redevenu un produit presque de luxe, en tout cas de grande qualité, avec des conserveries, il y en a encore aujourd'hui, qui font du beau boulot.
Oui, il y a pratiquement plus de conserveries sur les côtes bretonnes et sur les côtes normandes, mais certains ont préservé quand même la façon de travailler. C'est-à-dire qu'ils ont refait des sardines à l'ancienne. Parce que ça, il faut le dire quand même à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'industrialisation, la mécanisation du système n'allait pas pour le goût. Donc on s'est remis à travailler à la main avec un bon produit et ils nous ont fait des sardines magiques. Et ils ont eu l'intelligence, la pertinence de les mettre, bien sûr, en boîte et surtout de les millésimer.
C'est ça, les boîtes de sardines millésimées. Là, vous en avez une de 2017. Ouais. Qu'est-ce que ça change alors?
Alors, ça change. Olivier va être content parce que la sardine, c'est comme le vin. Ça vieillit bien. C'est vrai que la sardine, c'est un produit qui a là, c'est une matière première qui a
du goût. Tu peux garder combien ça, une boîte comme ça?
Au moins 10 ans.
Facilement.
Il faut la retourner.
Ça se...
Non, il faut la retourner régulièrement tous les 6 mois pour que l'huile se répande bien des deux côtés. Non, c'est pas une blague.
Et ça se bonifie. je vous promets que ça se bonifie.
La sardine, elle confit à l'intérieur de la boîte.
La sardine confit. Les arômes s'atténuent très délicatement.
Il ne faut pas retourner les bouteilles de vin, par contre.
Qu'est-ce que vous en faites en cuisine, Yves Candebordes?
En cuisine, on l'utilise assez régulièrement, mais moi, j'ai une petite recette très simple. Quand je reçois des copains à la dernière minute, j'ai toujours ma boîte de sardines. Ma boîte de sardines, je la mets dans un mixeur, je rajoute un jus de citron. J'ai envie de vous dire, si vous avez un peu de persil ou un peu de coriandre, de la coriandre, je mixe et j'ai une petite rillette de sardines,
c'est
assez
ça,
végétale.
Goûtez, Patrick Sébastien, on va essayer de vous réconcilier avec les sardines.
Et Laurent aussi, après, chaude.
Ah oui, chaude, ah oui, la boîte de sardines chaude, j'adore ça. Alors, c'est quoi votre recette, vous?
Bon, elle est assez simple. Mais il faut ouvrir la boîte. C'est impératif. Surtout, ouvrir la boîte, la mettre dans un four à 150 degrés.
Oui.
Prendre des pommes de terre primeur.
Oui, la petite bonnotte de noirmoutier ou la noirmoutier tout court.
Couper dessus un peu de cive. Y rajouter, pourquoi pas, un peu de persil, une pointe de coriandre, et déposer les sardines, les verser carrément sur les pommes de terre.
Ah, c'est comme le hareng pomme à l'huile un peu.
C'est revisiter le hareng pomme à l'huile, c'est faire la sardine à l'huile,
c'est bien
pomme
ça.
De terre.
Alors moi je fais ça avec, pareil, la boîte ouverte, avec un petit peu de sauce soja à l'intérieur dans la boîte, quelques lamelles de gingembre et d'ail, 150 degrés, une dizaine de minutes comme ça, ou alors sous le grill, c'est parfait. Ça vous plaît ça ou pas alors,
ouais,
Patrick
ça me
Sébastien
plaît, bien sûr. Ah, ça me
comme
plaît.
Quoi, ouais. Comme quoi c'est
tout
bon
me plaît, moi.
Mangeons des poissons bleus, on se retrouve dans un instant avec d'autres poissons, Patrick Sébastien. On va faire un petit tour du côté de Marseille pour déguster une bouillabaisse, mais une bouillabaisse particulière, vous entendrez. Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite les amis.
11h, 12h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, le retour attendu ce soir à 18h à Villacoublay des deux otages français enlevés au Bénin et libérés par les forces spéciales françaises au Burkina Faso. Des touristes dont l'un vient de rendre hommage avant son départ de Ouagadougou aux deux soldats tués lors de cet assaut, deux commandos marines, des nageurs de combat de Saint-Mandrier dans le Var. Toutes nos pensées vont aux familles de ces soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. Dans le journal de la mi-journée, nous serons avec notre spécialiste des questions de défense, Didier François. Il nous expliquera qui est le groupe qui a enlevé ces deux touristes français au Bénin et pourquoi les autorités françaises ont décidé d'agir très vite pour les libérer. Vous entendrez aussi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui expliquait ce matin en exclusivité sur Europe 1 que la zone où les deux hommes ont été enlevés était une zone rouge où il ne faut pas aller pour éviter que de tels enlèvements aient lieu et pour éviter, dit-il, des sacrifices de nos soldats. Toujours dans le journal de la mi-journée, 26e samedi d'action des Gilets jaunes, alors que le week-end dernier, c'était la plus faible mobilisation du mouvement depuis le début, le 17 novembre. C'est à Nantes que l'on redoute des débordements et vous verrez que les commerçants se barricadent. Nous serons aussi à Strasbourg pour le premier meeting cet après-midi de Jean-Pierre Raffarin pour soutenir la liste de La République En Marche pour les élections européennes. Le journal des sports avec Brest qui va faire son grand retour en Ligue 1, c'est du football bien sûr. Et puis le temps de ce samedi, beaucoup de pluie depuis hier sur l'ouest de la France et en région parisienne. Il est tombé l'équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations en 24 heures, nous dira Valérie Darmon. Ça commence à se calmer, le soleil devrait être de retour demain. Côté température, cela va de 12 degrés à Langres jusqu'à 23 degrés à Marseille.
Merci Fabienne, restez avec nous, vous êtes toujours à la table des bons vivants. Il est midi sur Europe 1.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Il est midi, soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants. Des pommes de terre nouvelles de Noirmoutier aux boîtes de sardines cuisinées par Yves Candebord et chantées par notre invité Patrick Sébastien. Nous allons déguster une bouillabaisse du côté de Marseille dans un instant. Patrick Sébastien,
ouais.
Vous êtes en tournée avec votre nouveau spectacle Avant que j'oublie. Vous êtes un habitué de nos régions. Alors là, vraiment, vous les connaissez, nos régions.
Depuis 40 ans que je tourne partout, je connais à peu près, je connais toute la France entière, je connais la gastronomie de la France entière.
Et ce qu'il faut expliquer, moi qui vous connais bien, c'est que vous faites tout en voiture. Il y a combien de kilomètres par an au compteur ?
100 000 à peu près.
Ouais, c'est ça, vous arrêtez pas.
100 000 quoi. Et je connais la bouffe un petit peu partout. Je suis très ami depuis très longtemps avec plein de grands chefs. Guy Sawa, c'est un très très vieil ami.
Est-ce qu'il y a une spécialité régionale que vous avez hâte de retrouver quand vous êtes en tournée ?
Non, pas vraiment, parce que c'est chez moi. J'ai la chance d'avoir une épouse qui cuisine merveilleusement bien.
Nathalie.
C'est-à-dire qu'à 3h du matin, avec rien à 3 du mat, elle va me faire quelque chose d'exceptionnel. Elle a quelques plats à elle, dont le poulet mexicain, qui est quelque chose d'extraordinaire, avec du riz, un petit peu de fromage, des épices. Elle cuisine, elle a la main, voilà. Alors que moi, je sais faire cuire 2 œufs, c'est tout.
Mais c'est déjà bien. Vous aimez manger des œufs, d'ailleurs, hein, ça fait partie
de votre... Mais moi, j'ai un régime alimentaire, je me couche à 5h du matin, et quand je me lève, je bois des jus d'orange frais, et je mange 2 œufs au jambon depuis des années. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, bon, c'était le café au lait avec du pain, et puis pour moi, c'était du luxe de manger 2 œufs au jambon. J'avais vu ça dans les films, tu sais, les mecs qui avaient des petits déjeuners dans les grands hôtels.
C'est
et
vrai.
Ça m'est resté, et pour moi, c'est toujours du luxe de manger 2 œufs avec du jambon le matin.
Dans votre spectacle, Avant que j'oublie, vous évoquez un souvenir de table avec Lino Ventura. Alors on vous envie, racontez-nous ça.
Bah ça, c'est un cadeau extraordinaire. J'ai eu la chance de connaître Lino, qui un jour m'a invité chez lui. Et c'est un des chocs de ma vie.
Qu'est-ce qui vous a fait à manger? Parce qu'il cuisinait les pâtes comme personne.
Voilà, à l'époque, j'étais pas. Aujourd'hui, je suis devenu allergique à l'ail d'un seul coup. Alors que j'adorais l'ail, je suis devenu allergique. Je peux plus. Mais et il m'a fait des pâtes à l'ail.
Oh, c'est bon.
Et ce qui était formidable, c'est qu'il s'est pas assis à table. C'est qu'il avait son tablier et il m'a dit, mais j'ai dit, tu t'assois pas à ta... Non, tu es mon invité. Je suis là. Il a mangé debout et nous, on a mangé assis. J'étais sur le cul, quoi. C'était surréaliste.
Patrick Sébastien, maintenant, direction Marseille pour découvrir la cuisine créative et maîtrisée. Vous allez entendre de Lionel Lévy. Je sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est le chef de l'Intercontinental de Marseille, un grand hôtel. Et Marion Sauveur, vous êtes allé lui rendre visite parce qu'il s'attaque à un mythe là-bas. La fameuse bouillabaisse.
Et oui, il la modernise. Alors, il garde bien sûr tous les fondamentaux. Ça, c'est important. Les poissons de roche, le bouillon, la rouille. Alors, c'est un grand chef étoilé, un Marseillais de cœur, mais qui, du coup, a décidé de revisiter vraiment de manière très particulière cette bouillabaisse et de la moderniser.
Parce qu'il est Toulouse, lui.
Et oui, effectivement. Et donc, il a fait un milkshake de bouillabaisse.
Alors, ça peut faire peur quand on raconte ça, mais il va retrouver vraiment tous les parfums et puis toutes les étapes et les différentes structures de la bouillabaisse.
Effectivement, alors vous allez retrouver la rouille tout en bas du milkshake, par-dessus une bouillade d'œuf, vous qui adorez les œufs, et avec un petit morceau de poisson, de filet de poisson à l'intérieur, et la fameuse soupe de poisson par-dessus le bouillon.
Écoutons le milkshake de bouillabaisse. Je pense que ça va faire réagir sur hashtag Europe 1.
Ah ouais.
Mais c'est un grand chef qui s'y attaque et c'est Lionel Lévy. On l'écoute.
Là, on va faire chauffer notre huile d'olive. On va mettre nos poissons, des tout petits rougets, des toutes petites, là, des petites rascasses, tout ça, je le fais revenir. On ajoute la garniture aromatique, on va laisser légèrement colorer. Et puis là, donc, on va baisser le feu et on va déglacer au pastis. On en garde un petit peu pour l'apéritif. Et là, je vais y rajouter quelques épices. Un petit peu d'anis étoilé, d'anis vert. Je vais faire revenir tout ça et je vais ensuite mouiller à hauteur. C'est là que je vais rajouter mon petit zeste d'orange pour amener un petit peu de fraîcheur. Et le safran, je ne veux pas qu'il cuise dans la soupe, je veux qu'il garde tout son petit côté floral. Il
ne faut surtout pas que ça bouge.
Il faut que ça sourisse, ça veut tout dire. On va la passer au presse-purée, on va récupérer notre liquide. Je vais en garder une petite partie pour faire ma sauce rouille. Là, la petite astuce, vous incorporez un foie de rouget dans votre sauce et ça va lui donner un côté iodé qui est remarquable.
Et maintenant, vous réalisez une brouillade d'œuf.
Pour couper un peu la force de la rouille. Je l'assaisonne avec les mêmes épices. Après, je vais découper des petits dés de filet de loup. Et donc ça, je vais le pocher dans ma soupe de poisson.
Vous goûtez maintenant.
On a tous les parfums. Dans quelques cuillères, on arrive à retrouver le goût de la bouillabaisse traditionnelle.
Eh ben c'est ça qu'on veut. On retrouve bien le goût originel.
Oh oui,
alors.
On retrouve le goût de la bouillabaisse. Oui,
mais la
c'est
forme
incroyable.
Et la texture et la structure ne sont pas les mêmes, évidemment. Lionel Lévy, il n'est pas fadin. Hein, c'est un grand chef. Il a démarré chez vous, d'ailleurs.
Hein, tout à fait, je le savais bien. Par contre, je ne suis pas sûr que sur le coup, il soit pas fadin.
Mais
allez l'OM.
Mais ça fait partie de ses plats signatures, ça, à l'Intercontinental de Marseille.
C'est son
plat, ce plat
signature.
Oui,
oui.
C'est un chef qui a une étoile, un grand chef, Lionel Lévy.
Va nous faire un milkshake de cassoulet.
bientôt. Qu'est-ce qu'on boit avec ce milkshake de bouillabaisse, Olivier Pouls?
Pas facile, parce que le liquide, la soupe avec le vin, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, il y a des vins blancs sympathiques dans la région. On peut aller sur une toute petite appellation qui s'appelle Palette. Et des vins blancs absolument magnifiques. Ça m'irait bien, voilà, sur cette bouillabaisse. Mais une fois encore, quand on a la soupe chaude, le vin, c'est un peu compliqué.
Et si on veut déguster une bouillabaisse traditionnelle à Marseille, on va chez...
Michel,
voilà,
en face du Cercle des Nageurs.
Exactement. Ne bougez pas, restez avec nous. Patrick Sébastien est notre invité. Il sera à Tulle, en Corrèze, bientôt avec son spectacle Avant que j'oublie. Pour l'instant, il est à cette table. Ce soir, c'est sa dernière sur France 2 avec Les Années Bonheur. Et on revient dans un instant pour répondre aux questions que vous avez posées sur le 39-21. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
De 11h à midi et demi, vous écoutez la table des bons vivants. Et alors, entre les bons produits et les bons invités, tout va bien, Laurent.
Oui, Justine, tout va pour le mieux à la table des bons vivants avec Patrick Sébastien, notre invité ce samedi. Alors, avant de répondre aux questions des auditeurs, parfois pris au piège dans leur propre cuisine, vous avez une recette, vous, Patrick Sébastien, où vous n'avez besoin de personne, c'est le magret de canard.
Ah, le magret, oui, mais le magret, moi, je mange depuis très longtemps et je supporte pas les sauces. On a servi une fois avec des sauces au thé, qui dénature complètement le goût. Pour vraiment retrouver le goût du magret, c'est faire cuire son magret aller-retour plusieurs fois, tu vois, etc. Le couper en tranches, bleu, il est pratiquement bleu, et je le mange avec tout simple comme ça, avec du gros sel. Chaque petit bout de magret que je vais manger, je le trempe dans le gros sel avec des pommes de terre à la truffe à côté. Et ça fait ressortir le vrai goût du
originel du magret. Patrick Sébastien, votre maman a beaucoup compté dans votre vie. Vous en parlez sur scène, hein, une femme courageuse, pleine
de bon
sens.
Ma maman, ma grand-mère, toutes ces femmes-là.
Ouais. Quel est l'endroit où vous avez pu emmener votre maman, vous, en bon fils? Je suppose que vous avez dû l'emmener faire de belles tables.
Bien sûr, j'ai amené à la Tour d'Argent, je l'ai amené dès que j'ai pu, comme on n'avait que dalle quand on était travaillé à l'usine. Ma mère, quand je suis né, j'avais pas de père, on était à la rue, tu vois. Mais on n'a jamais manqué de rien. Mes beaux souvenirs de bouffe, ils sont dans l'enfance, tu vois.
Lesquels?
Les petits pois qu'on écossait nous-mêmes, c'est les haricots qu'on allait ramasser, parce que moi, on ramassait les fraises, les haricots, etc., et on mangeait tout ça. Et ça m'est resté. La fête, c'était les endives au jambon du samedi. Et les endives au jambon, je suis un fou des endives au jambon. Endives béchamel, tu sais.
Ah, c'est bon, ça, mais on adore.
Et ça, c'est un goût de... c'était ma récompense de l'enfance.
Voilà. On taille la bavette ce samedi midi avec Patrick Sébastien et on répond aux questions que vous avez posées au 39-21. En voici une première, tiens.
Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. C'est Virginie de Landerneau. J'avais une petite question suite à mon four qui est défaillant. Je voulais savoir s'il était possible de cuire une quiche par un autre moyen. Voilà, merci et bonne journée à tout le monde.
Ah bah oui, bien
sûr. Four solaire.
Je vais pas four solaire comme la semaine. Mais on peut cuisiner à poil. Enfin, tout à poil, je veux dire.
Tout à fait. Hein, bon, après, à la poêle. Au barbecue aussi, pourquoi pas.
Au barbecue aussi, pourquoi pas.
Au barbecue fermé, ça peut marcher.
Hein, à la poêle, c'est bien. Hein.
La poêle,
le magret dont je te parlais, il est 10 fois meilleur à la poêle qu'on l'a essayé au barbecue aussi, machin. Il est 10 fois meilleur à la poêle.
Mais à la poêle, c'est très bien. Mais on peut faire une quiche à la poêle avec une pâte brisée qu'on va mettre dans le fond de la poêle, tout simplement, Yves Candebord.
Oui, tout à fait. Oui, il suffit. Hein, en fait, bon, on n'aura peut-être pas le résultat identique à ce qu'on peut trouver sur une pâte cuite naturelle, classiquement au four. En fin de compte, vous foncez votre poêle avec la pâte brisée, vous la démarrez tout doucement pour commencer à la colorer. Après, vous y mettez les ingrédients que vous voulez mettre dans votre quiche.
La garniture, oui.
Alors, ce qui est important, Laurent, c'est qu'il faut vraiment mettre les ingrédients secs, c'est-à-dire qu'il faut les avoir pré-cuits à l'avance pour pas qu'ils relâchent de l'humidité.
Et égoutter éventuellement si c'est des légumes,
totalement,
par exemple.
Et vous le mettez, après votre appareil à quiche, vous le laissez prendre à couvert tout doucement. Ça va durer quand même facilement 25-30 minutes et vous avez un résultat. Alors,
il n'y aura pas le gratiné du
dessus. Voilà. C'est pas une quiche Lorraine, mais c'est quelque part une quiche flan qui est fort intéressante à la maison.
Mais ça marche pour les étudiants aussi qui ont des petites surfaces parfois qui n'ont pas de four. Donc voilà, on peut faire une quiche à la poêle. Une autre question au 39-21.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je m'appelle Pascal, je vis dans le Beaujolais. Et en fait, j'ai une question sur les moules de cuisine, sans jeu de mots. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque matériau de moule de cuisine en fonction des objectifs recherchés? Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une très bonne émission.
Ah,
les moules de cuisine.
Les moules les ustensiles.
Oui, pour faire les biscuits.
Non, mais c'est vrai qu'il y en a en fer, il y en a en silicone, il y en a en porcelaine, il y en a en verre, il y en a de toutes sortes, Yves Candebord.
Ouais, totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit le plus sur le marché, c'est le silicone. Alors moi, personnellement, je ne suis pas pour du tout.
Oui, on n'est pas fan.
Parce que déjà, je trouve que la transfusion, chaleur, caramélisation se fait moins bien. Et en plus, il y a beaucoup de consommateurs, il y a eu beaucoup d'alertes.
Oui, il y a eu un rapport qui nous disait qu'il y avait effectivement des particules du plastique, du silicone qui allaient à l'intérieur des aliments. Ouais.
Moi, je pense qu'il faut rester classique, c'est le fer blanc.
Bien sûr.
Par contre, c'est vrai qu'il faut le chemiser, ce qu'on appelle chemiser, c'est passer un corps gras et bien souvent, soit de la farine dessus, soit du sucre pour pas que ça colle. Mais je pense que c'est le meilleur résultat. C'est le résultat où vraiment il y a la fusion entre l'appareil de cuisson, que ce soit l'appareil à financier ou une madeleine, et le moule. On a une très belle caramélisation et je trouve que c'est là le meilleur.
Et une belle conduction de la chaleur, parce que c'est vrai que le verre et la porcelaine conduisent moins bien la chaleur. Donc on ne va pas forcément avoir des choses qui vont prendre comme il faut. Donc le fer blanc, c'est la recommandation de la table des bons vivants. Eh bien merci Yves Candebord. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la semaine au 39-21 et ne bougez pas. On revient dans un instant pour cuisiner notre invité, le bon vivant et le camarade Patrick Sébastien qui est à notre table ce samedi midi. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bon samedi midi sur Europe 1, le bon vivant Patrick Sébastien est notre invité, son amour de la bonne chère, son goût de la fête, il se met à table avec plaisir ce midi. Alors avant de le cuisiner côté fourchette...
C'est que la fête, je ne la fais plus parce que...
Vous dites.
Par contre, la bouffe, c'est de plus en plus important.
Oui. Eh bien, on va l'entendre. Alors avant de vous cuisiner côté fourchette, on écoute Pink sur Europe 1, Walk Me Home.
Bien sûr.
Pink avec son dernier tube Walk Me Home que vous aurez sûrement la chance d'entendre si vous allez la voir en concert ce 3 juillet à Paris, la Défense Arena.
Europe 1.
Patrick Sébastien est l'invité de Laurent Mariotte à la table des bons vivants pendant encore quelques minutes sur Europe 1.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Alors vous êtes ici chez vous, tout comme Patrick Sébastien qui passe un bon moment, j'espère.
Ah oui, mais dès qu'on parle de bouffe, tu sais, moi je suis avec ma femme, on a fait plein de repas où on est que tous les deux et on ne parle que de bouffe pendant tout le repas.
Patrick Sébastien, c'est la dernière des années Bonheur ce soir sur France 2. Vous parlez de vos 30 années de télévision, au moins dans votre spectacle Avant que j'oublie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne laissez pas indifférent. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre flair. Je vais en citer quelques-uns, écoutez bien, amis auditeurs. Albert Dupontel, Danny Boone, Jean Dujardin, Raphaël Mesrahi, Shirley Edino. Vous avez mis le pied à l'étrier à de nombreux... Panacloc, absolument. Vous avez mis le pied à l'étrier à de nombreux artistes.
J'ai même eu en première partie une petite débutante qui avait 14 ans, que j'ai emmenée en tournée avec moi et qui j'ai fait faire son premier Olympia. Elle n'a pas fait une grande carrière derrière, elle s'appelle Céline Dion, mais elle aurait pu marcher. Mais c'est vrai que je lui ai fait faire son premier Olympia, la puce, il y a...
Et tiens, pour employer une métaphore culinaire, est-ce qu'ils ont la reconnaissance du ventre, alors, ces artistes?
Oui, relativement.
Quel flair vous avez eu?
Non, parce que je les aime. Et c'est ce que je déplore un petit peu dans le fait d'arrêter les émissions. Je ne vais plus pouvoir trouver des gens comme ça. Parce qu'il y en a plein, ils ont plus d'espace pour exister.
Est-ce que vous aimez le vin, Patrick Sébastien?
Évidemment. Alors, je suis très Bordeaux et je le bois, ce vin. Il y a des gens qui ont des caves, ils le laissent dans leur cave, ils ne le boivent pas, ils ne le partagent pas. J'en ai un là, en ce moment, qui est du Cantemer, là, qui est magnifique, qui est vraiment magnifique.
Alors, on va consacrer nos 2 minutes du vin d'Olivier Pouls, justement, à l'art de faire vieillir les vins, parce que ça a une importance, Olivier Pouls.
C'est vrai que faire vieillir son vin, on parlait tout à l'heure des sardines, le vin c'est l'un des seuls produits alimentaires qui peut non seulement vieillir, mais qui en plus se bonifie en vieillissant. Alors encore faut-il savoir, voilà, comme nous, qu'est-ce que c'est que faire vieillir son vin, dans quelles conditions, combien de temps, sachant quand même que sur l'ensemble de la production, on va aller environ 5% des vins produits sont vraiment produits ou dignes d'être gardé en cave plus de 5 ou 10 ans.
Olivier, comment on sait qu'un vin est fait pour être gardé?
Malheureusement, ce n'est pas écrit sur la bouteille. Et malheureusement, ce sont en général les vins les plus chers parce qu'issus des plus grands terroirs. Alors, on pense spontanément, effectivement, aux grands crus classés de Bordeaux, les grands crus de Bourgogne, les grands vins de la Vallée du Rhône. Quand je dis cher, ce n'est pas forcément des vins hors de prix, parce que quand on les achète jeunes, vous avez aujourd'hui, dans les Côtes du Rhône, par exemple, des vins à 15-20 euros qui sont tout à fait capables de vieillir pendant 10 ou 15 ans.
Alors, il y a les millésimes aussi.
Et puis, l'effet millésime, les grands millésimes de vieillissement, on a 2015 ou 2016 qui sont des exemples récents. Et puis, il y a des millésimes qui ont élaboré des vins, qui ont produit des vins qui ne sont pas destinés à être gardés très longtemps, comme 2013, par exemple.
Alors, quand on garde un vin, quand on le fait vieillir, c'est aussi pour avoir un rapport aux arômes, aux goûts différents. Et on en parlait avec vous, Yves Candebord, tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'est pas tous éduqués à ça, à reconnaître les bons arômes, le vin qui va devenir un peu plus complexe. Vous avez ouvert une bouteille, là, justement, d'un grand Bourgogne. C'est quoi? C'est un Gevrey-Chambertin?
Alors, je vous ai rapporté un Gevrey-Chambertin premier cru 1978, donc c'est un vin qui a 40 ans.
Celui-là, là?
Voilà, ouais. Exactement.
Année de naissance de Lucie Lescourou, notre rédactrice en chef qu'on salue.
À qui on va essayer de garder un petit verre.
Mais oui, il en reste un fond.
Alors, évidemment, il y a l'évolution du goût, c'est-à-dire qu'on quitte ce côté fruité primaire, ce côté cerise, framboise, fraise... qui est délicieux dans les vins jeunes, mais on va aller vers des notes, là pour le coup, ce qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire ça sent l'humus, ça sent le cuir, ça sent le fumé, ça sent l'animal, parfois la truffe, bien évidemment, et il faut être un petit peu éduqué à ces vins, ou en tout cas avoir une sensibilité.
Combien de temps on peut faire vieillir un vin, Olivier?
Il n'y a pas de règle. Patrick Sébastien nous a montré tout à l'heure une photo d'un Ikem 1901. Un vin qui a plus d'un siècle, et il était encore bon.
C'est du Ikem, c'est autre chose là.
Et puis ça dépend aussi de la manière dont on aime boire les vins. Il n'y a pas de règle. Les très grands vins, très bien conservés, ça c'est important, sont capables de garder très très longues.
Et ben on retrouvera les références sur europe1.fr.
J'ai une pièce qui tourne en ce moment, que j'ai écrite, qui cartonne, avec Philippe Chevalier et Didier Gustin, qui s'appelle Le Sommelier.
Patrick Sébastien, elle est finie de se marrer. L'heure de l'interrogatoire a sonné. Voici le questionnaire des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Patrick?
Bah écoute, le goût de mon enfance, je vais dire un truc tout bête, je vais dire le café au lait, parce que ma grand-mère me faisait ça, le café au lait, avec les croûtons de pain trempés. Il y a plein de choses, il y a la frotte à l'ail aussi, c'est un truc marrant.
Et les endives au jambon, vous en parliez tout à l'heure.
Les endives au jambon, bien sûr.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Ça dépend de la personne qui est avec toi. J'espère bien que mon plus beau repas inoubliable, je ne l'ai pas encore vécu. Ce qui est important, c'est les gens avec qui on le partage.
Le moment
et les gens avec qui on le partage.
Votre pire repas, Patrick Sébastien?
Je prends plus l'avion, donc chaque fois que j'ai pris l'avion, repas de merde.
L'ingrédient que vous détestez, Patrick Sébastien?
Pas que je déteste, mais il y a des choses que je n'aime que je n'aime pas, comme tout le monde. J'aime pas les. Alors, je suis très paradoxal parce que j'aime pas les abats. J'aime rien de ce qui est abat parce que comme mon père était boucher, j'ai vu fabriquer les tripes. Donc ça définitivement.
Son péril de vous.
Sauf la cervelle.
Ah, une cervelle.
Alors que les gens, c'est plutôt le contraire. Ah, ils n'aiment pas. Moi, j'adore la cervelle et j'adore les couilles de mouton. Parce que mon père me ramenait des couilles de mouton dans des gros sacs, je me souviens, qu'on appelle des riz blancs.
Oui, les rognons blancs.
Et à l'époque, taillés en tranches, persillés et tout, c'est extraordinaire.
C'est délicieux, ça.
C'est 10 fois meilleur que les riz de veau. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir de ça très, très fort et très, très bon.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
On m'a posé la question de ce que j'amènerais sur une île déserte. C'est la gaffe qui a fait la meilleure réponse. C'est sur une île déserte, j'amènerais un bateau avec le plein. Pour pouvoir rentrer bouffer à Paris.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Patrick Sébastien ?
Mon épouse, parce que j'aime partager avec elle. Et c'est des gens qui n'existent plus. J'ai eu la chance de connaître Frédéric Dard avec Guy Savoy. Parce que Frédéric Dard a écrit un texte sur le château Yquem qui est magnifique. Il appelle ça de la lumière bue. L'image est tellement belle. Et j'ai eu la chance que Guy Savoy me fasse découvrir le château Yquem en me servant le verre, en buvant le verre et en me récitant le texte de Frédéric Dard pendant qu'on buvait. Et ça, c'est un moment où ça me filerait presque les larmes aux yeux aujourd'hui. Parce que ça, c'est un très grand moment. D'ailleurs, mon plat préféré, mon goût préféré, c'est un morceau de roquefort avec du Yquem. C'est deux pourritures nobles qui se marient merveilleusement bien.
Quelle est votre adresse secrète ?
J'en ai pas mal. Après, c'est des potes. J'ai mon copain Norbert à Carcassonne qui est un ancien boucher qui fait une viande magnifique. Et puis après, j'ai plein de restaurants gastronomiques que j'aime bien. Mais c'est, je te dis encore une fois, c'est avec qui tu le partages.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Patrick Sébastien ?
Je sais pas cuisiner. Si, je sais cuisiner une chose. J'ai une omelette que je cuisine. Moi, il n'y a que moi qui sais la faire. Je fais une omelette au jambon et au fromage dans laquelle je rajoute des herbes. C'est la seule chose que je sais faire. Et c'est la mienne. Ça ressemble plus à des œufs brouillés à de l'omelette, mais c'est très très bon.
Mais c'est bon,
mais non, c'est super bon. Je me fais ça à 3h du matin avec une. Parce que le bon vin, le très bon vin, c'est 10 fois mieux de le boire avec quelque chose d'ordinaire. Rajouter un grand vin sur un grand repas, je prends toujours des vins normaux sur des grands repas. Par contre, sur le petit bout de Saint-Nectaire, là, le petit bout de fromage et tout ça, ça avec un très grand vin, c'est un bonheur absolu.
Et le mot de la fin, Patrick Sébastien, F-A-I-M.
Je te dis encore une fois, j'ai un respect pour les cuisiniers comme j'ai pour les artistes. Je trouve que c'est des artistes. Moi, ils m'ont filé les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux devant des plats. Voilà. Et ça, c'est une réussite pour un cuisinier formidable.
Merci Patrick Sébastien d'avoir été notre invité, un bel invité ce samedi midi à la table des bons vivants. Votre dernière des années bonheur, c'est ce soir sur France 2. Et puis votre spectacle en tournée, avant que j'oublie. Allez voir ce spectacle parce que c'est un Patrick Sébastien intime qui se raconte, qui dit des choses qu'il ne pouvait pas dire à la télévision et qui dit des choses intéressantes sur la vie, ses amis, ses grandes rencontres, ses amours et ses emmerdes. Et sur l'actu. Et comment ? Merci à Lucie Lescourou et Julien Amat pour m'avoir aidé à préparer cette émission, à Jean-Luc Arblade à la réalisation, Maryse Jacquet à la programmation. C'est le week-end, les amis. Nous sommes samedi. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi.
Et
comment ?
Surtout.
On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, Justine.
Bon week-end, Laurent. À samedi prochain, dès 11h. Et en attendant, comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission sur europe1.fr. Pour ce qui est de la suite du programme, vous retrouvez votre journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoelle dans quelques minutes. Et puis à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle qui reçoit aujourd'hui Maître Gims. Alors passez une bonne journée avec Europe 1, il est midi 26.